En coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Le but était de voir en quoi les robots militaires pouvaient aujourd'hui être des outils simples au service du combattant ou alors des facteurs de rupture. Je vais tenter d'aborder la question un petit peu rapidement. Redressant un tableau très rapide des avantages que peuvent offrir la robotique militaire, j'aime bien cette approche qui consiste à dire que le robot, c'est d'abord le déport des cinq sens, c'est plutôt les cinq sens que les cinq organes de l'être humain, à savoir c'est un œil déporté, c'est un capteur déporté, ça peut être un nez déporté, une oreille déportée, et un bras quelque part déporté qui est un effecteur déporté. Ça donne une dimension de déport qui s'appuie aussi sur une hausse de l'efficacité dans l'action. La discrétion, la permanence, la précision, qui sont portées par les évolutions technologiques. Alors, qu'est-ce que la robotique apporte en termes d'usage direct ? Alors, c'est un outil en accompagnement de l'action humaine, de l'action militaire. Cet outil, c'est voir plus loin, sentir plus loin, tirer plus loin. C'est aussi la protection du fantassin, parce que le déport permet de protéger le soldat. Le robot peut encaisser le premier choc de combat. Le robot peut détecter très rapidement une menace, un départ de coup. C'est aussi un plus tactique au service de la mission, un accroissement de l'efficacité tactique. Extension de zone, déport d'effecteurs, déport de capteurs, surveillance de zone, de bivouac, précision du tir, etc. Et là, je vous mets un petit schéma que je trouve intéressant, c'est qu'aujourd'hui, une unité sans capteur déporté a un lobe, c'est sa zone de contrôle qui est enfoncée ici, avec les robots, donc le déport des capteurs, sa zone augmente. Et c'est important aujourd'hui, alors que la ressource militaire se fait rare, et que les zones à couvrir sont de plus en plus importantes. Évidemment, je passe très vite sur les 3D, Dull, Dirty, Dangerous, je pense que vous les connaissez, c'est les missions qui sont pénibles, qui sont sales, nucléaires, chimiques ou autres, et les missions dangereuses pour le soldat. Donc ça, ce sont des usages directs. On a également des usages indirects qu'apporte la robotique militaire. Le premier, c'est la préservation de la ressource. Donc, on parlait des tâches répétitives et fastidieuses. Eh bien, si elles sont effectuées par des robots, alors ça permet de sauvegarder la ressource militaire à des fins plus importantes, plus utiles. Et donc, une préservation de la ressource en vue d'une action militaire plus ciblée. Ça permet également de durer, la robotique militaire. Durer, c'est sur plusieurs aspects. C'est à la fois l'allègement du combattant, qui du coup est plus résistant. Mais c'est également le petit schéma que vous avez en dessous, réduire l'attrition. Réduire l'attrition, avec le temps, une unité a un potentiel, on va dire, offensif qui fluctue en fonction de la fatigue, des munitions qui disparaissent avec le temps. Cet exemple montre que les robots peuvent aider, au moment où l'attrition est assez faible, une unité à se protéger de menaces éventuelles. Je prends un exemple tout simple. Une unité débarquée, lorsqu'elle rembarque, elle est très vulnérable. Les robots peuvent aider à sa couverture à ce moment-là. Enfin, on parle de système robotique également, l'interconnexion entre les différents milieux. Alors, est-ce que les robots changent l'art de faire la guerre ? Bon, ce qui est clair, c'est qu'ils permettent de produire une meilleure... produire une meilleure efficacité militaire. Donc, bon, est-ce que la technologie est une révolution ? Non, l'évolution technologique, ça c'est courant, il faut l'intégrer, et...
problème, là. Tenez, il y en a ici...
C'est bien. Donc l'évolution technologique, ça c'est pas propre à la robotique, c'est à intégrer. Il y a tout de même certains aspects novateurs qu'il convient de mentionner. Donc c'est que la robotique est par essence mobile, Donc c'est du déport mobile. Elle est interconnectée, ça c'est important parce que ça permet d'anticiper des informations, mais aussi de les traiter en temps réel. Donc faire du traitement numérique à distance et du ciblage à distance. Donc du ciblage à distance et traitement numérique, ça peut être, on peut imaginer un robot cloud tactique en arrière des unités qui traite des informations, qui renvoie les informations traitées sur l'avant. L'écran robotique en avant des forces qui prend le choc. C'est un mot que Christian avait utilisé dans les premiers. Et le swarming, ces fameux essaims qui permettent une concentration, un effet de masse, hein, un peu comme les panzers durant la Seconde Guerre mondiale. Alors, est-ce qu'on peut parler de rupture? À mon sens, il y a quand même quelques points qui peuvent être assimilés à des ruptures. D'abord, l'augmentation de la surface couverte par une unité. Donc ça, c'est le petit schéma que je vous ai montré initialement. Le drone devient indispensable dans certains cas de figure. Le Mali, aujourd'hui, couvrir les zones du Mali sans robots aériens, ça semble tout simplement impossible. Ou alors, c'est vraiment une période précédente. Là, il y a une rupture aujourd'hui. On ne pourrait pas vraiment se passer de robots pour ce type de mission. Il y a évidemment la rupture de la permanence. Hein. Être H24 sur une zone, ça, c'est quand même une révolution. Qui permet une baisse du délai de réponse. Donc ça, c'est le lieutenant-colonel qui commande les drones aériens de l'armée de l'air indiquait que la baisse du délai de réponse pouvait de nos jours tomber à une heure, alors qu'auparavant, pour les mêmes cas de figure, il fallait peut-être trois jours pour pouvoir répondre. Tout ce qui est déplacement au milieu hostile, c'est aussi quelque chose qui peut être envisagé de nouveau dans des ambiances polluées, chimiques, nucléaires ou autres. Avec des robots, la chose est possible. Donc, on peut aussi imaginer une plus grande modularité dans la réponse à une menace. C'est-à-dire que la robotique permet peut-être de choisir le type de réponse qu'on veut apporter de façon assez fine. Et surtout, la grande rupture, eh bien, c'est le combat déshumanisé, c'est-à-dire le combat sans homme, qui devient potentiellement possible. Alors, bon, je vais aller très très vite. Niveau tactique, vous avez quelques images. Je vous donne quelques exemples. Hein, reconnaissance d'axe, des hélicoptères, lorsqu'ils font certaines figures, sont très vulnérables. On peut imaginer des robots qui les entourent et qui les protègent pour ce moment spécifique. Notamment, ils ont un angle mort à l'arrière lorsqu'ils font certaines opérations. Les robots peuvent les couvrir à ce moment-là. On peut imaginer des drones d'escorte de navires qui soient armés, qui puissent tirer sur les moteurs des bateaux qui s'approchent, type piraterie. On peut imaginer du ciblage à distance, du tir au-delà de la vue directe. Voilà. Et le petit robot que vous avez en bas à droite, c'est un robot russe qui s'appelle le Platform M. Et alors, je cite, hein, il a été intégré dans les exercices militaires russes assez récemment à l'occasion d'une campagne d'exercice. Et sa mission était d'être dédiée au renseignement, à la détection et à la neutralisation de cibles fixes et mobiles, et même en milieu urbain. Alors, le niveau opératif, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau opératif? Donc, quelques exemples ici. Surveillance de zones frontalières, l'image en haut à droite. Donc de grandes zones comme ça peuvent être surveillées par des robots. Et on peut imaginer, donc c'est les deux petits engins que vous avez ici, dont un est au milieu, le Stratobus de Thales. Hein. C'est un engin qui est à mi-chemin entre le drone et le satellite. Le projet lui prévoit une durée de vie de 5 ans, avec les missions d'observation, de télécommunication, de broadcast d'informations, etc. Donc ces engins-là permettraient la couverture radio d'une large zone. Au niveau stratégique, eh bien, je reprends l'exemple de Gary Powers, hein, en 1961, qui se fait abattre avec son avion espion U-2 en Union soviétique. Aujourd'hui, je pense que la chose ne serait plus vraiment envisageable. L'avion espion de demain, c'est celui-ci. Alors, l'avantage, quelque part, au niveau stratégique, c'est qu'il n'a pas d'homme. S'il se fait détruire, on peut toujours s'excuser en disant qu'il y a eu une panne de niveau du système de navigation, etc. Mais il n'y a pas un prisonnier, il n'y a pas une violation physique, quelque part, humaine du territoire. Donc je pense que ça réduit le risque de réponse à l'agression qu'un tel engin peut faire. Et puis il y a le bombardement stratégique. Je vois bien les Israéliens, d'ici quelques années, utiliser des avions de ce type pour aller bombarder un site nucléaire, je ne sais pas où, plutôt que de risquer leurs hommes. Voilà. Alors, quels apports et quels échelons ici ? Un tableau qui essaye de synthétiser très rapidement quelques avantages sur le plan de l'utilisation, sur le plan de l'économie au milieu, et puis quelle perception on peut avoir par l'ennemi. Je démarre tout en bas par l'aspect tactique, donc j'y reviens pas. Les avantages au niveau tactique, je les ai cités, appui de mission tactique. En termes d'économie de coût, ben, pas vraiment, parce qu'il faut toujours des forces au sol pour utiliser ces robots au niveau tactique. Bon, ça apporte un plus aux soldats, mais il faut des forces au sol. Quelle perception sociologique par l'ennemi ? Bon, l'armée qui les utilise a un haut niveau technologique, c'est sûr, et donc eux, ils vont essayer de rechercher la faille dans l'utilisation, dans la doctrine d'emploi de ces drones, de ces robots au niveau tactique. Au niveau opératif, je reprends la couverture large zone, ça c'est quelque chose qui peut être fait, une présence H24. On peut aussi voir des missions confiées à certains robots au niveau opératif, par exemple des convois logistiques sur de longues distances, sur des patrouilles sur de vastes zones. Alors, en termes d'économie, c'est intéressant parce que c'est des missions qui peuvent être confiées à des robots et non pas à des hommes. Quelle perception par l'ennemi ? C'est une menace permanente au-dessus de sa tête. Au niveau stratégique, les avantages, c'est de pouvoir avoir du renseignement facilement, de frapper partout, à distance, avec précision. Donc, c'est une sorte d'élongation de l'action politique. Et puis, peut-être, on peut imaginer du soutien sans présence humaine, largage de ravitaillement ou autre, sur une zone amie ou qu'on veut soutenir. En termes d'économie des coûts, eh bien, là encore, le coût d'implication des forces est moindre. Perception sociologique par l'ennemi, c'est un petit peu comme au niveau opératif, c'est omniprésence d'une surveillance et une sorte de menace planétaire qui est au-dessus de nos têtes. Alors on en arrive au niveau politique. Quels avantages de la robotique militaire au niveau politique ? Eh bien, c'est probablement de pouvoir contourner les barrières du recours à la force. La perception d'une action robotique militaire en termes d'agression est moindre que celle-ci, qu'une opération classique de nos jours avec des forces militaires. En termes d'économie, c'est moindre. Par contre, c'est sous réserve de la maîtrise du domaine aérien. Perception sociologique par l'ennemi, alors là, ça devient plus compliqué parce que si le politique se met à utiliser des robots pour faire des missions, alors qu'est-ce que c'est que cet État qui ne semble pas courageux ? Et est-ce qu'il y a vraiment une éthique dans la guerre ? Ça, c'est des questions qui peuvent tout à fait se poser. Alors, au niveau de la symétrie, peut-être, pardon, juste pour conclure peut-être le tableau précédent. Donc, en fait, la croyance, c'est peut-être que les robots peuvent baisser le coût du recours à la force au niveau du politique. En termes de légitimité de ce recours à la force, eh bien, bon, c'est le combat, c'est un peu ancien, du loyal des loyales. Bon, est-ce que des valeurs de combat telles que le développe M. Grégoire Chamaillou avec l'homme qui expose sa poitrine au feu ennemi est valide ou pas dans ce cas de figure ? Bon, je pense que l'archer de Crécy face à la chevalerie française est déjà une réponse. La perte des valeurs chevaleresques utilisées par les archers anglais a beaucoup choqué notamment la noblesse française. Bon, force est de constater que l'arc a bien perduré et que pouvoir tirer plus loin, c'est toujours ce qui donne l'efficacité à l'action militaire qui l'emporte, et ça a été le cas. Donc, a priori, le robot, c'est pas lui en lui-même, le robot armé qui peut tirer de loin, c'est pas tellement lui le problème. C'est pas tellement de savoir si les nouvelles technologies sont bonnes ou sont pas bonnes ou sont mauvaises, mais de savoir plutôt dans quelles circonstances elles sont utilisées. Donc, quelle place pour les robots dans une structure de force, dans les conflits de demain ? Alors, je parlais du Mali et des zones immenses à couvrir, c'est déjà une première réponse. Pour les forces terrestres, il y a quand même un changement qu'on peut voir, on peut pressentir, c'est l'artillerie qui, quelque part, prend des ailes. Autant les forces aériennes auront toujours, évidemment, la mission de sécuriser l'espace aérien et de le contrôler, autant on peut imaginer que les forces terrestres vont développer des moyens de frappe d'artillerie à distance en utilisant des drones, force qu'elles peuvent aujourd'hui avoir. Alors, pardon, l'asymétrie. Est-ce qu'on assiste à un nivellement de l'asymétrie ? Oui, tout à fait. Alors, je cite, le 23 août 1915, dans la région de Tabqa, en Syrie, vous le savez probablement, mais l'État islamique a utilisé un simple drone grand public chinois qui s'appelle le Phantom FC-40. C'est quelque chose qui coûte 500 $. Pour réaliser un repérage aérien de la base à attaquer. Grâce à ce repérage, les djihadistes ont pu détecter les points faibles de la défense de la base de Tabqa, puis ils ont envoyé deux camions suicides pour les détruire. Donc là, on assiste clairement à, quelque part, à une réduction de, peut-être de l'asymétrie. En tout cas, ce sont des armes qui peuvent être utilisées assez facilement par les ennemis. J'y reviendrai. Alors, il y a aussi les réponses aux menaces robotiques. L'ennemi utilisant ses drones, c'est une menace pour nous. Alors on peut imaginer une guerre anti-drone. Hein. Ça peut passer par des fusils anti-drone, ça existe. C'est des fusils qui brouillent complètement le drone, qui fait qu'il perd ses repères et du coup, soit il retourne à sa base, soit il se pose, soit il devient un petit peu perdu. On peut imaginer des drones qui combattent d'autres drones. Donc il y a un risque de menace robotique pour nous. Et j'effleure la question industrielle, ce n'est pas tout à fait l'objet du propos aujourd'hui, mais il y a quand même un point qui est important, c'est la question de dualité civilo-militaire. La robotique va être tirée par le civil, le développement fait dans le civil, et donc beaucoup de technologies seront adaptables du monde civil au monde militaire. Il y a aussi la question des coûts, les coûts des systèmes non habités en comparaison des coûts des systèmes habités. Aujourd'hui, le SDTI, le drone d'observation de l'armée française, qui équipe le 61e régiment d'artillerie, coûte 1 million à 1,5 million d'euros. Un Reaper coûte, on va dire, 15 millions d'euros. Un Rafale coûte 150 millions d'euros. Donc il y a un facteur 100 entre le SDTI et le Rafale. Pour une mission d'observation simple, il est clair que le robot semble beaucoup moins onéreux. Je mentionne ici les robots consommables parce que c'est une notion qui peut se développer, le robot qui peut être détruit lors d'une action militaire. Par contre, ce type de robot, il faut qu'il y ait un cheminement quand même au sein des forces armées pour accepter qu'un équipement puisse être consommable. On l'accepte pour une munition, pour un robot, ça sera plus difficile. Le problème qui se pose, c'est quand même les cycles d'armement. Aujourd'hui, la technologie va très très vite. La technologie civile, devient obsolète, on va dire, tous les 3 ans. Les cycles sont très rapides. Or, les cycles d'armement, de programmes d'armement, sont très très longs. Et donc là, il y a un challenge, il y a un défi à relever qui est assez important. Il faut réduire les cycles d'armement en robotique. Il faut accepter que ces robots puissent être remplaçables assez facilement. Alors, la place de l'homme au cœur du au combat. Le soldat aujourd'hui, il coûte cher. Aujourd'hui, il est au cœur d'un dispositif de tactique. Avec l'utilisation de robots, il va passer au centre d'un système d'armes robotisées. Ça, c'est l'évolution quand même qu'on peut pressentir. Donc voilà, il passe de ceci à contrôler un environnement un peu plus complexe avec des moyens d'action, si évidemment il a les moyens robotiques à sa disposition. Se pose la question du décideur. Alors, il y a un risque à ce niveau-là, c'est que le robot est vecteur transmet beaucoup d'informations, il est connecté, il voit, il transmet des images, il peut traiter des informations, etc. Mais il peut aussi renvoyer tout ça aux échelons supérieurs. Et là, il y a une vraie question qui est quel niveau d'information peut-on renvoyer au plus haut niveau et pour quel niveau de décision ? Quel niveau d'information pour quel niveau stratégique ? Barack Obama qui suit en direct les SEALs qui vont abattre Osama Ben Laden, le risque est que Barack Obama dise à tel soldat « Non, vous allez à gauche, c'est vous qui tirez, etc. » Et le lieutenant perd qui commande l'opération perd son rôle parce qu'il s'efface devant évidemment l'autorité supérieure. Ça se décline à tous les échelons. Le lieutenant a ses prérogatives que n'a pas le capitaine, que n'a pas le colonel, que n'a pas le général. Or, la tentation d'avoir une image pour que le décideur prenne cette image en compte et décide au cœur de l'action militaire, ça, c'est vraiment quelque chose qui menace un petit peu les structures actuelles, enfin, en tout cas, qu'il convient d'étudier. La multitude de ces capteurs fait qu'il faudra un nécessaire accompagnement de la charge cognitive, parce que aujourd'hui, la composition d'une unité sur le terrain est telle que si on lui rajoute plusieurs informations portées par la robotique, ça risque d'être un peu compliqué. Alors moi, je me suis fait la réflexion suivante. Il y a déjà un officier de tir adjoint au niveau d'une compagnie de combat. Pourquoi pas avoir un officier de traitement de l'information numérique en appui du commandant d'unité ? Parce que gérer les écrans, gérer les informations ou autre. Alors, combien de temps me reste-t-il, pensez-vous ?
Je ne sais pas.
Je peux...
Vous avez commencé il y a
20 minutes. Oui.
Il reste un peu de temps sur les transports, il reste du temps.
D'accord. Alors, les questions de drones armés. Alors, c'est un vrai débat qui est double. Il y a le robot armé téléopéré. Et il y a le robot armé autonome. Là, à mon sens, les vraies questions se sont déplacées du robot armé téléopéré au robot armé autonome. Alors, sur le robot, on va dire armé téléopéré, il y a tout le débat dont on parlait, porté par M. Grégoire Chamaillou, qui associe le danger à une action militaire. Bon, notre société, et là je cite le capitaine Goffi, indique qu'on a perdu l'éthique sacrificielle. Ça n'est plus valorisé par notre société. Au contraire, c'est plutôt le zéro mort qui préoccupe les médias. Donc tout cela entraîne le fait que les drones sont perçus comme étant positifs dans l'action. S'ils portent une action militaire plus loin, plus facilement et avec moins de danger. Et ils sont aussi plus durables, plus précis. Alors on peut prendre un exemple. Donc, on est dans le robot téléopéré. Un robot téléopéré qui est sur zone pendant un certain temps voit mieux la cible qu'un pilote de rafale qui passe très rapidement sur zone. Il a donc la possibilité de mieux étudier les risques potentiels et les effets collatéraux d'une action létale. Et de ce fait, des gens disent que ce n'est pas forcément éthique. Au contraire, on peut peut-être leur rétorquer que c'est plus éthique parce que c'est plus précis. Toujours est-il que... un petit mot sur la légalité de l'emploi de ces drones. En fait, il n'y a pas de vide juridique dans l'utilisation d'un drone aujourd'hui. Le tout, c'est qu'il respecte les règles du DIH, du droit international humanitaire. C'est déjà pris en compte dans les doctrines d'action militaire. Ce n'est pas le robot en lui-même qui va poser ce problème-là. C'est plutôt la légitimité de la décision politique puis militaire de leur emploi qui, elle, pourrait être remise en question. Mais le robot, en fait, n'est qu'un outil. La question, à mon sens, la plus importante, c'est celle-ci, c'est les systèmes d'armes létaux autonomes. Alors, il y a beaucoup de choses qui pourraient être dites dessus, je vais quand même être un peu synthétique, mais c'est le drone autonome armé. Aujourd'hui, vous le savez, il y a des pétitions qui se lancent pour interdire l'utilisation de tels engins. Alors, on est plutôt dans le futur, là. Ceci étant, force est de constater qu'on a déjà des systèmes qui sont autonomes et létaux. Ce sont les Counter Rocket Artillery Mortar, les CRAM, un système qui équipe les croiseurs américains qui s'appelle le Phalanx, une sorte de grosse mitrailleuse multitube qui, face à une menace de missile, répond de façon automatique et détruit le missile. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'homme a un délai de réaction trop long. il ne peut pas réagir assez rapidement face à une menace de ce type. Donc, ces systèmes existent. Alors, ils ne sont pas forcément robotisés, ils ne sont pas forcément mobiles, hein, ils sont sur un bateau. Je crois que vous avez une présentation du robot Samsung Tenkwing à la frontière sud et nord-coréenne. Là, il commence à avoir une mobilité sur les rails. Donc voilà, on est déjà quelque part dans des systèmes de robotique armée autonome. Alors, on les appelle les SALA, systèmes d'armes létaux autonomes. À mon sens, on n'est pas un robot armé n'est pas SALA. Il passe dans un mode SALA, c'est-à-dire que c'est un robot qui est téléopéré, piloté à distance par un opérateur, et l'opérateur, à un certain moment donné, active un mode qui est le mode SALA, un mode donc qui est je suis out of the loop et je délègue l'ouverture du feu. Quel cas de figure pour les utiliser, ces robots en mode SALA? Eh bien, c'est lorsque les attaques sont saturantes. En face de soi, typiquement, je protège mes hommes, ou je me fais, et pour éviter de me faire détruire, eh bien, j'utilise un robot que j'active dans ce mode-là pour me protéger. Avec le fait que la réactivité de ces engins-là est bien supérieure à celle, encore une fois, que peut avoir un être humain. Du coup, les nécessités que je liste ici, que je vois, moi, qui pourraient être intéressantes pour... qui pourrait cadrer l'utilisation de ces robots en mode SALA, c'est tout simplement ces robots pourraient opérer dans un espace physique borné, par exemple un espace aérien bien défini, avec des secteurs de tir précis, avec des plages horaires d'activation précises, d'un temps T à un temps T plus X, opérer dans une zone où les capteurs peuvent être effectifs. Donc les capteurs, ma caméra peut voir jusqu'à telle distance, donc là je peux prendre une décision et pas au-delà. La liste des cibles potentielles doit être validée par une autorité militaire et le robot doit pouvoir respecter des règles d'engagement précises. En bornant l'utilisation de robots dans ce mode-là, on limite quelque part ces possibilités d'utilisation et ça permet de les intégrer dans des règles d'engagement et des contraintes qui sont proprement de militaires. Alors je vais prendre un exemple, c'est le combat aérien, j'imagine, de demain. Ça, c'est ma vision propre. Combat aérien de demain. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est lourd et encombrant dans un avion? Ben, c'est l'homme. Alors je ne suis pas pilote, il y a des personnes certainement bien plus spécialistes que moi, mais le pilote, c'est quelque chose qui est lourd, qui est encombrant, il faut son siège éjectable, c'est la ressource bien évidemment à protéger. Bon. En plus, il a des contraintes physiologiques, il ne peut pas supporter plus de 8G s'il est très entraîné, etc. Vous l'enlevez d'un robot, vous réduisez la taille du robot, en l'occurrence d'un drone, hein. Vous réduisez la taille du drone, vous lui permettez d'avoir une meilleure manœuvrabilité, peut-être supporter du 20G hein, si la structure le supporte, et ce sont des engins qui ont des temps de réactivité par leurs capteurs très 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 fortes. Donc, imaginons un espace aérien demain d'exclusion totale, entre tel parallèle, telle zone, aucun aéronef n'est autorisé, c'est une décision validée par les États, hein. Eh bien, pourquoi pas imaginer l'utilisation de robots comme ça, qui patrouillent H24 et qui détectent les cibles, qui les analysent et qui ouvrent le tir de façon autonome si la menace se présente.
Mais c'est pas un combat aérien, excusez-moi.
Alors, si, ça peut le devenir si la menace arrive pour passer en force. Et dans ces cas-là, entre ce drone
bien, mais si armé... Mais s'il y a des drones en face aussi.
Ça deviendra un combat entre drones que je qualifie d'aérien. Mais
c'est là que ça devient intéressant.
Ça sera réellement un combat aérien dans l'air, mais sans pilote. Mm-hmm. Alors, avec toujours, la contrainte, c'est quand même que l'homme ait une possibilité de supervision. Et alors, ça peut être ma conclusion, c'est que en fait... Le pilote, je le vois se prendre du recul vis-à-vis d'un pilotage classique tel qu'on peut voir aujourd'hui. Il supervisera un ensemble de systèmes dont certaines fonctionnalités seront rendues autonomes. Ça peut être la surveillance, ça peut être la détection et ça peut être l'arme létale. Ça a déjà été mentionné par certains, hein, c'est que le pilote de demain sera peut-être, on va dire, un pilote de rafale entouré de plusieurs robots avec des missions différentes. Un peu comme le porte-avions aujourd'hui, au milieu de l'océan, est entouré de divers bateaux qui accompagnent, qui le protègent, qui détectent les mines sous-marines ou autres. On peut imaginer la même chose dans le monde aérien, avec l'homme qui supervise l'ensemble et qui délègue l'autonomie sur certaines fonctions au drone ou au robot qui l'accompagne. Peut-être tout le combat aérien, c'est ça. Et donc la place de l'homme là-dedans, elle reste avec sa responsabilité. C'est lui qui active ces systèmes autonomes autour de lui. C'est lui qui prend la responsabilité. C'est lui qui voit l'impact sur l'engagement, les contraintes d'engagement. Mais au plein cœur de l'intensité du combat, ces systèmes pourront bénéficier d'une certaine autonomie. Voilà ma vision. J'aurai encore évidemment peut-être plusieurs choses à dire. Mais je crois que le temps avance. Et alors si peut-être un... Bon, ça c'est le schéma, le mode opératoire d'activation du feu, mais j'y passe. Ce que je voulais vous montrer, c'était tout simplement, pour conclure cette image-là, donc ça c'est voilà, une force terrestre un peu classique aujourd'hui qu'on peut retrouver dans un GTIA. À mon sens, il n'est pas du tout exclu de voir que le système de demain sera celui-ci. Donc vous avez un drone haute altitude qui couvre la zone. Vous avez des UAV, des mini-drones aériens de reconnaissance qui patrouillent tout autour. Et puis vous avez des robots terrestres, pourquoi pas armés, hein, qui accompagnent le char Leclerc ici présent. Et puis des petits robots de déminage ou d'observation, ou de détection de départ de coups de feu aux côtés, etc. Thank you.